c'est une joie pour nous d'être ici à Toulon-Ouest. On a calculé, on était là il y a 7 ans pour une activité d'évangélisation. Donc tous les 7 ans. Il y en a pour 2 ou 3 de plus avant qu'on ne soit tous à la retraite. Le sujet ce matin, c'est religion ou évangile. Et ce matin, bon, c'était justement dans le cadre d'une série de conférences dans notre église à Saint-Gaudens que j'ai développé quelques thèmes, et le but c'est de donner le plus d'informations utiles possibles pour qu'à la fin de la conférence, donc ce n'est pas un message habituel du dimanche matin, ce n'est pas un message que moi j'aurais choisi pour faire un culte, mais comme c'est dans un cycle de conférences, je crois sujet, aujourd'hui le sujet c'est religion ou évangile, et on va donc voir un peu le tour de la question, quelles sont les diverses religions dans le monde. Vous verrez qu'il y a plusieurs genres de religions, et puis à la fin nous allons voir ce qu'est l'évangile et pourquoi l'évangile ne ressemble à aucune religion dans le monde. Donc pour commencer, depuis que l'homme est sur la terre, depuis que nous sommes là, nous cherchons à connaître l'infini. Nous cherchons à nous approcher de ce Dieu ou de ces dieux qui dirigent le monde. Ces dieux ou ce Dieu qui influe sur notre vie et tous les phénomènes naturels qui nous entourent. L'homme a aussi, dans sa conscience, il a le sens de ses manquements. Tous les hommes ont un code moral inscrit dans leur âme. En même temps, un homme, contrairement aux animaux, on a le sens d'un destin. On se dit, je suis là pour une raison. Il y a une raison à ma vie. Et on a l'impression que on n'a pas été fait uniquement pour vivre quelques dizaines d'années sur Terre avant de mourir et remplir un trou dans la Terre. On ressent qu'il y a plus que ça dans la vie humaine. En même temps, l'homme est soucieux de ses récoltes. C'est un agriculteur à la base. Il pense à la météo, des préoccupations quotidiennes. Alors il dit, j'aimerais bien avoir un moyen de mettre les dieux, ces dieux, où qu'ils soient, j'aimerais bien les mettre de mon côté, j'aimerais bien qu'ils m'aident plutôt, je ne veux pas qu'ils me soient hostiles, je ne veux pas que ces dieux me fassent subir leur malédiction. Puis certaines populations sont médusées par la puissance de la nature. Ils regardent le soleil, la beauté de la lune, les bienfaits de la pluie, le changement des saisons, tous les printemps, ils voient tout qui repousse, ils disent c'est comme une résurrection, et ils sentent c'est comme la mort et la résurrection, et ça fait la base aussi de sa religion. Aussi, l'homme regarde la procréation, le rite de la procréation. Une femme est enceinte, elle donne naissance à un enfant, c'est merveilleux, et on dit ça doit faire partie aussi de quelque chose de divin, ça doit faire partie de quelque chose de religieux. Juste, pourrais-je marquer une pause? Pouvez-vous proposer de mettre peut-être là-bas, s'il vous plaît, juste un peu plus loin, je pense que, et peut-être vous qui voulez vous accrocher, c'est pour permettre une meilleure compréhension de tout le monde. Notre ami a besoin d'une traduction, et ça c'est formidable que quelqu'un puisse le faire pour elle, et en même temps pour lui permettre d'être un peu plus tranquille, hein? Merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas fini encore, je vous garantis, il y a des fois. Merci beaucoup, hein, merci de votre compréhension. Alors, toutes ces choses-là, ce sont des phénomènes qui marquent l'homme, qui marquent l'homme dans son âme. Il dit, mais oui, il doit y avoir un système religieux que je peux inventer, quelque chose que l'on peut trouver pour essayer d'être le mieux possible dans le monde dans lequel nous trouvons. Alors, avant les systèmes religieux, il y a quelques idées de base. Par exemple, la magie. Qu'est-ce que c'est que la magie? La magie vient de l'idée que ce monde est composé de divers objets qui ont une vie propre. Par exemple, les gens qui pensent que le tonnerre, c'est comme une personne. Le soleil, la poussière, les animaux, les vents, les objets divers. Dans le vaudou, on estime qu'une poupée peut être identifié à une personne. Et si donc on perce la poupée avec des aiguilles, on peut mettre une malédiction sur une personne. Ou alors, on peut avoir un objet qui nous serve de porte-bonheur. Quand j'étais enfant, on avait des petites pattes de lapin. Et alors, on avait un certissage en argent ou en inox, et avec une chaîne, et ça, soi-disant, devait porter le bonheur. C'est de la superstition. C'est la base de la magie. La religion aussi considère que l'homme est un être unique, capable de penser, et l'homme essaie d'expliquer pourquoi il est là. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il y a un Dieu suprême? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi avec lequel je peux être relié? Puis vous avez la science. Alors la science pense que l'homme est une espèce comme une autre. La plus évoluée des espèces animales aujourd'hui, c'est l'évolutionnisme, et la science essaie d'expliquer comment l'homme est arrivé sur la Terre et comment tout ce monde est arrivé par des hypothèses, par ses études. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'univers est immense. On pense même qu'il y a peut-être plusieurs univers. Et on se dit, mais si ces univers qui sont en train de s'agrandir à vitesse grand V, tous ces éléments qui sont en train de partir les uns plus loin des autres à chaque seconde, on peut imaginer que tous ces univers étaient dans un seul point au départ. Et que quelque chose est arrivé pour faire une grande explosion. C'est le Big Bang, n'est-ce pas? Et alors, à calculer à quelle vitesse ces univers partent les uns loin des autres, ces galaxies, ils ont fait marche arrière, ils ont dit, bon, mais à cette vitesse-là, ça doit faire à peu près 15,5 milliards d'années qu'il y avait une particule qui a explosé. C'est une manière, comme une autre, d'expliquer les choses. Mais la science se veut rationnelle. Donc la science va essayer uniquement d'expliquer le côté mécanique. Et quand la science commence à expliquer la religion, elle dit, ben, l'homme a trouvé que si on faisait appel à un Dieu, et si un homme disait à un autre, tu vois, moi je représente Dieu, donc tu as intérêt à m'obéir, ça lui permet de prendre le contrôle de l'autre. Et c'est de là que vient la religion. Ça c'est l'explication scientifique du phénomène religieux. Donc ça c'est la religion en général. Parlons maintenant des religions préhistorique. Parce qu'avant l'histoire écrite, on avait déjà des religions. Par exemple, en Égypte, dans le croissant fertile, on a trouvé des monuments funéraires. On a trouvé des momies assis, comme s'ils devaient voyager dans l'au-delà. On a trouvé des objets de culte symbolisant la sexualité, la vie et la mort. Donc, dans ces premières religions, déjà les hommes avaient l'idée que l'âme est immortelle. Et on a eu aussi des pratiques religieuses pour avoir les bonnes moissons, et puis que la terre produise bien et qu'on vive dans la richesse. Donc on a toujours eu cette idée que ma vie sur terre se passe le mieux possible et que je prépare bien mon corps pour le voyage qu'il va faire après ma mort. Mon âme va partir dans une barque quelque part dans l'infini. En Chine impériale, donc nous parlons 3 et 4 000 ans avant Jésus-Christ, la religion primitive était fondée sur le yin. Ça c'est l'hiver, les travaux dans les maisons faits par les femmes, et le yang. Ça c'est l'été et le travail dans les champs faits par les hommes. Donc le yin et le yang, c'est le rythme des saisons, l'ensemencement, la moisson, et on avait des rites de mariage, de danse, et on avait une croyance mystique que les éléments de la nature pouvaient apporter des bonnes ou de mauvaises influences. En Chine impériale, on construisait une cité-palais, un peu comme nos forts fortifiés en France, et on avait donc quatre portes, nord, est, ouest, sud. Et au milieu, c'était une grande place, ça correspondait au centre du monde, c'était comme un modèle réduit. Et on disait que ces quatre points cardinaux correspondent à des parties du monde comme les étoiles, le soleil, la terre, la lune, ou encore le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Et le roi se déplaçait dans sa cour à des points déterminés, En allant par ici, il appelait la bénédiction des étoiles. En allant par là, il demandait la bénédiction de la pluie. Et comme on pensait que les éléments de la nature, on pouvait les inviter en se déplaçant dans cette cour, c'est ainsi que l'on faisait les rites religieux chinois. C'était également à ce moment-là que l'on commençait le culte des ancêtres. Chaque enfant vouait à son père le plus grand respect et estime. Et dans la Chine impériale, en petit enfant, on lui enseignait « Tu es la réincarnation de ton grand-père ». Donc c'est une très ancienne religion. Ensuite, passons à la religion égyptienne. Alors, l'Égypte, on peut retracer son histoire jusqu'à 2500 ans avant Jésus-Christ. Au début, le divin, donc le Dieu, est associé à des puissances. Très mystérieux, on ne sait pas encore très bien écrire. Mais après qu'on a développé l'écriture, ce Dieu impersonnel, on a eu l'idée d'un Dieu personnel. Qu'il y a vraiment un Dieu qui existe. Et ce Dieu est incarné dans le roi. C'est ainsi que le pharaon d'Égypte était adoré comme un dieu. On pensait qu'il était l'enfant du soleil. Le dieu Ra, soleil, avait enfanté Pharaon. Et alors, ils avaient des maisons de vie, on appelait ça comme ça. C'était comme des monastères, facultés, où on recopiait les textes sacrés et on y faisait aussi de la médecine. Parce que les gens religieux, les prêtres religieux, depuis toujours, ont toujours aussi fait de la médecine, pensant qu'ils avaient les moyens d'appeler les dieux, des influences à venir et guérir le corps des hommes. Donc les deux ont souvent été associés. Les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux. Ils avaient des dieux de localité, les dieux des autres peuples, tels qu'Astarté, ou les anciens pharaons, comme Ramsès ou Amenophis. D'autres dieux, par exemple, ils avaient Tutu-Iris, c'était un hippopotame femelle, avec son mari Khétepès, qui c'était un nain, mais grotesque, qui protégeait la femme qui accouche. Ou vous avez encore le dieu Akhet, la prairie, Népri, qui était le grain, Hermoutis, la récolte, ou Api, le Nil. Et le Nil, on les vouait en culte très important. Ça explique pourquoi, quand le Seigneur a donné les 10 plaies sur le pays d'Égypte, il a attaqué chacun des dieux égyptiens. Et il a terminé avec l'enfant de Pharaon et Pharaon lui-même, montrant que Yahweh, le dieu des Hébreux, le dieu des Hébreux, le dieu de Moïse, était plus puissant que tous les dieux de la terre. Et il a fait en sorte que toutes les civilisations alentour le sachent. Et c'est ainsi, quand les Juifs sont arrivés, les Israéliens sont arrivés à la porte de la terre promise, les gens de Jéricho avaient très peur. Et Rahab était terrorisée, et elle a caché les espions, et elle a pris fait et cause pour Yahvé, le Dieu d'Israël, parce qu'elle savait qu'il était le plus puissant des dieux. Et elle avait même témoigné. Le plus grand dieu égyptien, c'était Ra, le dieu soleil. Il devient maître du monde et du ciel, et le père de Math. À partir de la 5e dynastie, il devient le dieu de l'empire et s'incarne dans chaque roi. Le roi donc devait rendre des comptes à Ré et honorer Math, le dieu de la vérité et l'équité et la droiture. Il y avait aussi le dieu Hermès ou Thoth, qui était le seigneur de la sagesse, des lois et des textes sacrés. C'était aussi le maître du calcul et du temps. Alors, en Égypte, on avait ces entités théologiques, on avait tous ces petits dieux, on avait la terre, le ciel, l'air, l'eau, l'océan, la vérité, la justice. Il y avait Hou, sa conception intellectuelle, le dieu des idées. Et puis, on avait pensé justement aux 5e et 6e dynasties, on pensait que le monde avait été créé par le verbe de Ptah, qu'il avait conçu dans son cœur et qu'il a créé par sa parole. Et donc, il disait, ce dieu Ptah a fait un homme qui peut penser et qui peut parler, et ça fait qu'il ressemble à Dieu. Donc, Dieu doit être honoré. et on rendait le culte au dieu Ptah, le dieu qui nous a permis d'avoir la pensée et d'avoir la parole. Toutefois, dans l'Égypte, on croyait à un dieu suprême, plus grand que les autres dieux, il s'appelait Amon, auquel étaient associés beaucoup d'autres dieux qui n'ont partagé que quelques caractéristiques. Donc au Moyen Empire, Amenophis III, il a changé son nom pour signifier celui qui plaît à Amon. Et tout à coup, en Égypte, le pays de plusieurs dieux, Amenophis a dit non, maintenant il y a un seul dieu. Et c'était la première fois en Égypte qu'on croyait au monothéisme. Mais ça a pris des centaines et des centaines d'années de polythéisme. Parlons un peu maintenant des religions du Proche-Orient. Alors le Proche-Orient, vous avez un grand dieu et une grande déesse. Il y a toujours un couple dans l'affaire. Et ils portent en eux la fertilité et la fécondité. C'est bien, parce que c'était des fermiers et ils voulaient qu'il y ait beaucoup de blé, ils voulaient qu'il y ait beaucoup d'animaux, ils voulaient qu'il y ait beaucoup d'enfants. La fertilité, la fécondité, ça donne la richesse. Alors, on avait des dieux régionaux, en Proche-Orient, par divers animaux. Par exemple, le dieu de la montagne, c'était le bouquetin. Le dieu de la forêt, c'était le cerf. Et dans la plaine, c'était le taureau. Parce que c'était un peu les animaux, un peu le roi de leur région respective. On a développé aussi l'astrologie au Proche-Orient. Alors, l'astrologie, c'est quoi ? C'est l'homme qui essaie de parler à Dieu et qui essaie d'avoir les bonnes influences des dieux. Les astrologues ont fait des mesures précises entre les étoiles. Ils comptent les étoiles, ils voient que les étoiles bougeaient, et tous les mois, les étoiles étaient légèrement changées de position, et ils disaient, l'arrangement des étoiles influe sur le destin. Si vous naissez au mois d'avril, vous avez un certain signe du zodiaque et certaines choses vont vous arriver, vous aurez tel genre de personnalité. Si vous naissez en décembre, les étoiles seront disposées autrement, vous aurez un autre destin et vous aurez un autre caractère. Et ça persiste encore jusqu'à aujourd'hui. Dans la plupart des journaux, on peut lire horoscope et ça dit si vous êtes né en mai, juin, juillet, août, ça dépend, vous aurez telle journée, vous aurez tel défi, vous avez tel caractère, vous aurez tel destin. Donc ça c'est très très ancien et encore aujourd'hui c'est revenu à la mode. Il y avait outre l'astrologie ce qu'on appelle la divination. Alors la divination propose d'interpréter des phénomènes qui se déroulent pendant le sommeil. Quelqu'un a un rêve, on lui explique ce qu'il a vu et il essaie, alors on lui dit, mais tu as eu un rêve, c'est que les dieux t'ont apparu et ils t'ont voulu communiquer quelque chose. Il faut que tu saches ce qu'ils voulaient te dire, c'est très important. S'ils t'ont fait un rêve, c'est qu'ils veulent te parler. Et on trouve ça dans la Bible. Le roi Nebuchadnezzar, Pharaon, et Dieu avait mis à côté de ces deux hommes-là, des hommes en qui il avait parlé, et Dieu, lui, effectivement, a utilisé les rêves à certains moments pour parler à des hommes qui ne connaissaient pas sa parole, qui ne le connaissaient pas du tout, et à mettre à côté d'eux un Joseph, un Daniel, Dieu a pu communiquer à ces hommes-là. Mais la divination, c'est beaucoup plus que c'est beaucoup moins clair que ça. Hein? Alors, comme dans ces rêves, généralement, le Dieu ne s'exprime pas clairement, le devin devait expliquer ce que le Dieu a voulu dire. Et c'est pour ça que le Nebuchadnezzar, quand Daniel vient expliquer son rêve, il a dit, l'esprit des dieux habite en toi. Les dieux viennent directement te dire clairement ce qu'ils n'ont pas voulu me dire clairement. Et toi, tu m'as éclairé la lanterne. Alors, je te mets à une belle place dans mon royaume, parce que si les dieux veulent me parler, j'ai intérêt à te garder à côté de moi, que tu puisses m'expliquer ce qu'ils ont dit. Parfois aussi, on sacrifiait un animal, on prenait son foie, puis on coupait le foie en deux, et soi-disant, dans ce foie, on devait découvrir l'avenir et le destin, parce qu'on disait que les dieux inscrivaient leur volonté dans le foie des animaux. Parfois, la foi était mal formée, et ça voulait dire aussi quelque chose, mais le devin devait expliquer toutes ces choses. Donc, ouais, il y a des côtés pas très très nets quand même. Vous avez la religion mésopotamienne, commence avec les Sumériens, repris par les Assyriens, les Mèdes et les Babyloniens. Et dans ce couple, le couple divin, la déesse s'appelait Inanna, et elle préside à l'accroissement de la famille humaine et à celle du bétail. Le grand dieu est symbolisé par l'épi, et puis après par le taureau. Il y avait un dieu enfant, le jeune dieu s'appelait Tammuz, et lui était représenté par la chèvre. Alors le cycle de la végétation était vu comme la mort cyclique d'un dieu. Dieu meurt et au printemps, Dieu ressuscite. Et ça a été gardé à Noël, par exemple, la bûche de Noël symbolise un arbre qui est mort. Et puis la houe, avec la feuille verte, la vie qui reprend, mort et résurrection cyclique de la nature. Ça, c'est très très ancien, ce genre de choses. Le soleil de midi, quand le soleil de midi tapait sur la tête des gens et brûlait les plantes, on disait ça c'est Nergal, le dieu des enfers. Et donc quand l'automne et l'hiver arrivaient, la végétation mourait, tout était mort, tout avait l'air inanimé, on faisait des lamentations liturgiques. Et après, quand le printemps venait, on faisait des réjouissances. Et le grand dieu ou le jeune dieu, dans ces religions, devait s'unir sexuellement à la déesse de la fécondité. Donc c'était tout entier basé sur les saisons. Au printemps, les jeunes plantes poussent, la vie reprend. Eh bien, le dieu et la déesse, il est le moment de se procréer. Donc on va faire venir un enfant. Et donc, bon, beaucoup d'enfants ont été conçus au printemps pour fêter le retour des feuilles vertes et des plantes. Et donc les prêtres faisaient cette fête et finalement ça conduit à la prostitution sacrée. Et c'est de là qu'on a ces prêtresses prostituées dans les temples, déjà du temps de Paul à Corinthe. Ils avaient ce genre de pratique dans le temple de Vénus, la déesse de la fertilité. Donc la religion phénicienne et la religion des Étiens étaient presque identiques. Et en Ézéchiel 8, verset 14, Dieu condamne les femmes juives qui pleurent Tammuz dans le temple de l'Éternel. Donc même les peuples juifs avaient adhéré à cette religion de Tammuz et pleuraient en hiver la mort de Tammuz avant de se réjouir de sa résurrection. Mais elles faisaient ça dans le temple de l'Éternel. Et donc Dieu était vraiment très en colère de cette religion païenne qui se pratiquait dans le temple de l'Éternel. Passons maintenant aux religions indo-européennes. Alors ces religions indo-européennes sont un peu les ancêtres des religions occidentales, des religions qui nous ont influencés le plus. Ces religions indo-européennes sont issues d'entre la mer Baltique et la mer du Nord et se sont répandues grâce aux chevaux et aux chars et constituent la base de plusieurs civilisations. Vous avez par exemple l'Inde, l'Iran, la Gaule, ça c'est chez nous, l'Irlande, la Prusse, la Scandinavie, les peuples celtes, germains, les Lituaniens, les Slaves. Tous ces peuples ont des liens linguistiques qui permettent de remonter vers des ancêtres et une langue commune. Nous sommes un peuple indo-européen pour l'ensemble. Ce sont les indo-européens qui ont inventé le tripartisme. C'est-à-dire, dans n'importe quelle société, vous avez ceux qui gouvernent, ceux qui protègent, ceux qui produisent. Et en Moyen-Âge, ça donnait les clercs, qui avec les politiques dirigent, les chevaliers, qui protègent, et les plèbes, qui travaillent la terre et qui nourrissent le monde. Pour l'Inde védique, les dieux sont divisés en trois groupes. Donc il y avait des Atithya, je ne suis pas très bon en hindou, c'est des gens qui gouvernent de manière sage et personnelle. Vous avez les Marut, qui assure la protection et les vasus qui assurent la productivité et la fertilité. Et chaque catégorie de dieux a des dieux bons et des dieux méchants. Donc vous imaginez donc un très grand nombre de dieux. Vous avez, si vous voulez, en foudre vous tombe sur la tête ou à côté de vous, vous dites ça c'est un méchant dieu dans la nature qui vient de frapper un grand coup, et après une belle pluie qui vous fait pousser les plantes, ça c'est un gentil dieu dans la nature qui m'a fait une fleur. Bon. Donc il y avait des dieux bons et des dieux méchants dans ces trois catégories selon les Indo-Européens. Mais en Iran, il y avait un réformateur qui s'appelle Zoroastre. Et Zoroastre a créé la première religion monothéiste en Iran, donc chez les Perses. Alors il a inventé le monothéisme pour combattre le polythéisme pour des motifs politiques et religieux. Il voulait avoir du pouvoir, il a voulu imposer une nouvelle religion. Et donc cette religion a combattu pendant très longtemps le christianisme dans l'Empire romain. Mais le zoroastrisme a quasiment disparu depuis que l'Iran a embrassé l'islam. Alors c'était quoi Zoroastre? C'est ce qu'on appelle le manichéisme, c'est-à-dire il y a deux puissances. Il y a le bon, le bien et le mal. Les deux sont de puissance égale. Les deux luttent l'une contre l'autre. Et chacun doit choisir avec qui il sera. Aussi, c'est pour ça, le corps, il est mauvais, le corps est mauvais, et l'esprit est bon. Donc, le corps, il ne faut pas le mettre dans la terre, parce que ça va polluer la terre, et la terre est bonne. Donc, le corps, il faut l'incinérer, le feu va tout purifier. Donc, le zoroastrisme, c'est la purification par le feu. Donc, on n'enterrait jamais personne, on les brûlait sur des grandes tables pour ne pas souiller la terre. Ils avaient beaucoup d'idées différentes. C'était du paganisme, mais il y avait l'idée d'un seul Dieu. Bon. Vous avez la religion du Rome antique aussi. Alors là, c'était un peu plus légal. Hein. Par exemple, il avait le Dius Filius, le dieu des contrats et des traités. Vous savez, le mot fiduciaire, les banques, la légalité, ça vient d'eux. Jupiter, c'était le guide, le protecteur et le garant de la grandeur de Rome. Il gouvernait par la magie et par ses propres décisions. Son gouvernement est influencé par Juventas et Terminus, les mots que l'on connaît. Juventus de Turin, c'est ça, hein? Bah, ça, c'est des anciens dieux romains. Juventas s'occupait de la durée et de la reproduction de la communauté humaine de Rome. Terminus en assurait le patrimoine matériel. Le dieu protecteur, c'est Mars. C'est le dieu de la force physique et du combat. Même si Mars intervient également pour l'agriculture. La troisième fonction, la fécondité, la richesse, l'attachement à la terre et la masse sociale, est patronnée par Quirinus et une multiplicité de dieux et de déesses tels que Ops, Flora et Larès. Flora, fleur. Donc on a dans notre culture religieuse et artistique des mots comme ça qui reviennent des dieux de Rome antique. Même les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Nord, avaient à peu près cette religion-là. Ensuite, la religion grecque, j'espère que je ne vous lasse pas trop, ça vous donne des clés pour comprendre un peu d'où viennent un peu toutes ces religions. La religion grecque, surtout au début, était centrée sur la terre, qui est l'origine de toute vie. Alors, les gens primitivement, disait la terre, c'est comme une mère nourricière. On va planter, les plantes poussent, on va manger. La terre nous nourrit. La terre, c'est une déesse, Gaïa. La terre. Et l'amour de la terre qui est notre mère nourricière. Alors, selon l'ancienne religion grecque, de la terre vient toute vie. Même la vie humaine vient directement de la terre. Alors, selon eux, la terre a d'abord produit des géants avant de donner naissance aux hommes. Donc les ancêtres mythiques des peuples qu'on appelle des héros seraient les dieux de ces tribus. Vous avez peut-être entendu parler des titans. Titanic, c'était en bateau, mais les titans, c'était des géants avec des forces exceptionnelles, et ils ont lutté contre d'autres géants, et c'était des batailles incroyables. Et d'ailleurs, les poètes grecs ont parlé de ces dieux-là, et puis, enfin, c'est des surhommes, et puis des hommes plus petits sont arrivés, vous et moi, et puis finalement, on a fait de ces titans nos dieux à nous, et puis on lutte avec eux, ils luttent de notre côté, enfin, ça fait toute une religion. Ensuite, la religion grecque, par la suite, est devenue quelque chose d'assez structuré pour aider les citoyens à s'entendre dans leur démocratie. On avait par exemple la religion grecque, c'était donc des prêtres, c'était en même temps des magistrats. Ils dirigeaient la loi et faisaient aussi le culte. On faisait des processions, on faisait des sacrifices d'animaux, et on demandait à tous les citoyens d'être dans cette religion, de travailler ensemble, d'adorer les mêmes dieux, de suivre les mêmes prêtres qui étaient en même temps les magistrats. Ça faisait que tout le monde était uni. Et quand on n'adhérait pas à la religion, c'était non seulement un crime, mais un péché contre Dieu et contre la société. Donc le fidèle n'avait pas de relation personnelle avec la divinité, mais faisait partie d'une ville. Par exemple, dans une certaine ville, nous, on adore Jupiter. Tout le monde adore Jupiter. Oui, oui, ici, dans cette ville, tout le monde adore Jupiter. Dans la ville à côté, ils adorent Mars. Quand on est fâché avec eux, on fait la bataille et on va voir si Jupiter est plus fort que Mars ou Mars est plus fort que Jupiter. Et donc, ça lie les gens ensemble dans une même identité, dans une même citoyenneté et dans une même religion. Et cette idée-là est venue en Europe par le catholicisme qui a dit aussi la même chose, il faut que toute l'Europe soit catholique. Il faut que le pape soit le chef spirituel de tout le continent. Et pour cela, il faut s'appuyer sur des empereurs et sur des rois qui vont être loyaux et qui vont nous assujettir les peuples, et nous, on travaillera avec eux. C'est ce qui a donné le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge n'a pu être cassé, et la Renaissance n'a pu venir que parce qu'on a redécouvert le texte biblique, on l'a traduit dans les langues européennes, et les gens, par l'imprimerie, ont pu les avoir, et lire, et découvrir la vérité de la Bible, qui n'était pas la même chose que le catholicisme. Et ça a produit une libération des esprits, et les gens ont pu avoir un contact personnel avec le Dieu de la Bible. Et donc, peu à peu, l'oppression a cessé. Je pourrais continuer longtemps, mais une chose dans cette religion grecque, vous avez des mystères. Alors, les mystères, c'était, on disait aux gens, vous comprenez, on a des choses très cachées à vous dire, et puis, c'est pas pour tout le monde, uniquement pour les gens qui sont intelligents, comme vous, et comme vous, vous venez chez nous, on vous donnera l'initiation des mystères, et puis, on vous expliquera les secrets, et comme vous saurez plus que les autres, vous serez plus puissant que les autres, et vous pourrez dominer sur les autres par cette connaissance secrète. Attention, ne le dites pas à tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Et aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes religieux qui marchent là-dessus. Je pense par exemple à la Rose-Croix, si vous avez entendu parler. Le mouvement rosicrucien est basé sur cette idée de mystère qu'on dit à quelques initiés. Ensuite, il y a les philosophies orientales. Alors vous avez le brahmanisme, c'est l'hindouisme. C'est un mélange de mythes, de divinités, de cultes, de sectes, de théories. Mais dans l'hindouisme, la base, c'est la naissance. Ça veut dire, dans quelle famille êtes-vous né? Dans quel niveau social êtes-vous né? Donc il y a plusieurs classes, plusieurs castes. Et une fois que, si vous êtes né dans, une bonne classe sociale, quelle est votre connaissance? Plus vous avez de connaissances, plus vous vous approchez Vous êtes plus brahman, vous êtes dans le bon, vous êtes avec les gens bien là-haut. Selon l'hindouisme, on est hindou donc en vertu de sa naissance dans l'un des quatre castes. Le plus élevé, c'est la caste des brahmans. Plus élevée la caste, plus on doit vivre dans la pureté dans tous les domaines. Alors le karma, on en parle de ces choses aujourd'hui de plus en plus. Le karma, c'est ce qui fait naître un enfant dans sa caste. Mais le dharma, on n'en parle pas trop, le dharma, c'est son statut social et les règles de vie qu'il doit observer. Il faut absolument qu'il se marie dans sa caste. Il ne faut pas qu'il se marie hors de sa classe sociale, sinon il devient un intouchable, hors caste. Un hindou qui accepte le Veda ou les enseignements doit y faire conformer sa vie, ce qui l'amènera au moksha, la délivrance. Il sera en union ou en yoga avec le divin. Cette union signifie que son âme individuelle est en union parfaite avec le soi universel, c'est le néant universel. On fond à la fin dans l'universel où le néant, c'est le nirvana. On arrive au nirvana en associant l'action, c'est le karma, à la dévotion, c'est le bhakti, et à la connaissance, le jnana. Si on arrive à la perfection dans les deux premiers domaines, l'action et la dévotion, on arrive à la connaissance ultime, qui est l'illumination et l'amour, comme le soleil et chaleur et lumière. Nous sommes tout à fait près de ce que dit le Dalai Lama et tous ces gens-là, et c'est quelque chose qui fait fureur en France, parce que c'est plaisant pour l'homme de dire « je m'élève par mes efforts, par ma dévotion, et il n'y a pas le concept de péché, il n'y a pas le concept de jugement, j'y arriverai un jour par mes propres efforts à une sorte de nirvana, et voilà, je fondrai dans l'infini et ça finira dans la lumière, ça va être merveilleux. » C'est très plaisant, c'est surtout très imprécis, c'est très flou, mais c'est plaisant. Nous arrivons au bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas l'hindouisme, c'est un peu différent. C'est les enseignements du Bouddha. Alors le nom, le Bouddha veut dire l'illuminé ou celui qui est éveillé. C'était un homme qui s'appelait Siddhartha Gautama. À 29 ans, M. Gautama a quitté sa femme et son fils nouveau-né et est allé vivre en ascète parmi les maîtres. Après 6 ans de mortification et d'austérité, il se retire dans une forêt dans la plus profonde méditation. Donc, Gautama, il se retire, il vit seul dans la forêt, et une nuit, sous un arbre, il reçoit une illumination sur les causes de la vie, sur les causes de la souffrance et sur le moyen de faire cesser la souffrance. Vous aimeriez savoir, n'est-ce pas? Comment faire cesser la souffrance? Eh bien, selon le Bouddha, il faut renoncer au moi. Il faut renoncer à tout attachement. Il faut renoncer à tout désir. Il nie le système des castes de l'hindouisme et dit que tous peuvent avoir la connaissance s'ils pratiquent le renoncement et comprennent la vérité qui sauve. Les adhérents du Bouddha se sont divisés en deux groupes. Vous avez ce qu'on appelle le petit véhicule, alors ça fait un peu voiture, mais c'est... Le petit véhicule, ce sont les gens qui ne croient que l'essentiel de ce qu'il a dit, sans rien ajouter d'autre. Et le grand véhicule, ce sont des gens qui adhèrent aux thèses de Bouddha, tout en ajoutant des notions d'hindouisme et beaucoup d'autres pratiques. Donc vous avez un peu les puristes, puis vous avez un peu les syncrétistes qui ajoutent plein de choses à l'enseignement du Bouddha. Quel est donc le message de Bouddha? Il est très simple. Adorer un Dieu personnel quelque part, c'est dangereux. C'est le message du bouddhisme. Ça, si vous adorez un Dieu personnel, ça veut dire que vous désirez la satisfaction du plaisir,
vous désirez un bonheur éternel, vous désirez une vie personnelle, vous désirez croire que vous serez quelque part dans un monde ou dans un autre monde pour l'éternité. Il dit, c'est très mauvais d'avoir ces désirs-là. Alors, il dit, voilà, et je le cite, « Soyez à vous-même votre propre flambeau et votre propre refuge. » Sur le bouddhisme, vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes votre propre éclairage. Il donne quatre nobles vérités qui résument tout son enseignement. Première vérité, toute vie n'est qu'une suite de douleurs. On va dire « oui, d'une certaine manière ». Deuxième vérité, la souffrance est causée par l'ignorance et le désir est né de l'ignorance. Ça veut dire que si vous avez des désirs, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. Vous avez le désir de la satisfaction, du bonheur éternel, vous avez tout cela. Ça, c'est des désirs qu'il ne faut pas avoir. La souffrance, si vous voulez détruire la souffrance, il faut anéantir le désir. Vous renoncez à tout désir, vous rejetez tout désir. Vous avez la délivrance en acceptant la discipline du noble sentier qui dissipe le désir et l'ignorance. La méthode donc du noble sentier, c'est 8 embranchements qui s'appellent la croyance droite, la volonté droite, les paroles droites, les actions droites, les moyens d'existence droits, les efforts droits, l'attention droite et la méditation droite. Il faut donc comprendre l'homme et le monde de manière juste, avoir une vie pure, sage et droite, une pitié et une compassion active pour tout ce qui vit. C'est pour ça que les bouddhistes ne veulent pas écraser une araignée et une fourmi, parce qu'on a du respect pour tout ce qui vit. On pratique les exercices de concentration, de méditation et d'unification de la pensée qui feront connaître à l'esprit les choses comme elles sont en réalité. On pourrait parler encore des religions mexicaines, la religion maya, la religion inca, celle des aztèques, des religions africaines. Mais on veut vous faire grâce ce matin de tout ça. Venons-en et je vois que vous soupirez de soulagement. Les religions monothéistes. Parlons du judaïsme. Le judaïsme a pour texte sacré la Torah. Connaissez les 5 premiers livres de la Bible. Écrit par Moïse 1500 ans avant Jésus-Christ. Dans Genèse à Deutéronome, on a un Dieu unique, un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui donne une loi morale qu'on appelle les 10 commandements, ainsi que 613 autres lois pour régir la société d'Israël. Et vous avez cela dans les 5 premiers livres de la Bible. Pendant la captivité en Babylone, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, les scribes et les docteurs de cette loi ont développé le Talmud. Alors, le Talmud, c'est les commentaires qu'ont fait ces rabbins sur la Bible. Et ce Talmud a beaucoup de traditions qui ne sont pas dans la Torah, qui ne sont pas dans le livre de Moïse. C'est pour cela que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit « Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Pour les Juifs du temps de Jésus, ils étaient sur le Talmud beaucoup plus que sur la Torah. Ils étaient dans les traditions religieuses beaucoup plus que dans la loi de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas le principe du Seigneur Jésus. Alors, les Juifs considèrent que le peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour servir d'intermédiaire entre lui et les autres peuples de la terre. Mais pendant très longtemps et encore aujourd'hui, les Juifs considèrent qu'ils ont été choisis par Dieu parce que c'est un meilleur peuple que les autres et qu'ils n'ont aucune responsabilité de partager leur Dieu avec les non-Juifs. Et c'est précisément pour cela que le Seigneur a mis le peuple d'Israël de côté temporairement et puis il a inventé l'Église parce que nous, l'Église, on doit maintenant être ce peuple témoin pour lui.
Mais dans le judaïsme, on dit que tous les hommes, par leur conscience, doivent observer la loi de Noé. Alors, c'est très intéressant. Il dit que tout le monde n'a pas accès aux 10 commandements, mais tout le monde a accès à Noé, au déluge. Quelle est la loi de Noé? Alors, ils disent, c'est l'institution de la justice, le respect de Dieu, la prohibition de l'idolâtrie, de l'adultère, de l'inceste et du vol, et de ne pas manger des animaux vivants. Mais le judaïsme est plus qu'un mode de vie, plus un mode de vie qu'une religion. Dans le judaïsme, tout est sacré. Le judaïsant doit en tout temps réciter quelques textes de la Bible, tels que le schéma Elohim, notre Yahvé, et un seul Elohim. Donc le judaïsme aujourd'hui, surtout pour les juifs orthodoxes, c'est une religion, mais c'est une manière de vivre, c'est une manière de manger, c'est une manière de se vêtir, c'est une manière de... ça touche tous les domaines de leur vie, absolument tous les domaines de leur vie. C'est un style de vie, beaucoup plus que simplement des croyances. Vous avez le christianisme, je l'explique un peu comme une religion. Le christianisme naît du message de Jésus-Christ, qui est un prophète juif de Nazareth, et promulgué par ses apôtres. Ce christianisme a été repoussé par toutes les autres religions pendant 3 siècles. Les 3 premiers siècles, les chrétiens ont été persécutés. Malgré tout, les communautés bibliques se propagent, se multiplient, et au bout de 300 ans, il y a de très nombreux chrétiens dans l'Empire romain. En 313, l'empereur Constantin, il déclare le christianisme comme l'une des religions de l'Empire romain. Tout à coup, le christianisme devient une religion officielle et c'est politiquement correct que d'en faire partie. Du coup, les églises chrétiennes se sont remplies de païens qui recherchaient les bienfaits politiques et les faveurs politiques qu'ils pouvaient avoir en devenant chrétien, en adhérant à l'une des religions de l'Empire. Par la suite, l'empereur romain a donné ses titres religieux. Il avait par exemple un titre, le souverain pontife, un titre de l'empereur. Il a donné ce titre à l'évêque de Rome. Et du coup, l'évêque de Rome est devenu le souverain pontife et puis devenu le pape ou le père de toute l'Église. En 1054, suite à de très nombreuses querelles, l'Église chrétienne grecque s'est séparée de l'Église latine pour former l'Église orthodoxe grecque. Alors l'Église orthodoxe grecque suit d'un peu plus près la Bible sur certains sujets que l'Église catholique romaine, mais la manière de gouverner est la même. Vous avez 2 grandes institutions religieuses qui disent représenter Jésus-Christ sur la terre. Mais les deux sont un mélange de christianisme et de paganisme. Il y a des éléments de paganisme mélangés au christianisme dans les deux. Au XVIe siècle, quelques hommes comme Martin Luther, Ulrich Zwingli ou Jean Calvin, tous catholiques, ont vu les excès et les défauts de l'Église catholique romaine et ont voulu la réformer. Aucun de ces hommes n'avait l'intention de quitter l'Église catholique. Ils voulaient que l'Église catholique change, qu'elle devienne plus biblique, qu'elle devienne moins païenne. Mais, bien sûr, l'Église catholique les a totalement rejetés et donc ils ont fondé des églises dites protestantes pour protester contre cette Église catholique. Alors ces protestants ont quand même redécouvert le salut par la foi en Christ seul. Ils ont redécouvert l'autorité de la Bible. Pour eux, seule la Bible est la vérité et plus l'Église. Ce qui fait qu'ils ont laissé tomber beaucoup de fausses doctrines du catholicisme. Toutefois, ils ont gardé certaines doctrines du catholicisme. Par exemple, le baptême des nourrissons, baptême des bébés par aspersion. La Bible ne dit pas que c'est mauvais, la Bible ne le condamne pas, la Bible n'en parle pas. Donc, ils ont gardé cela. Mais certaines choses donc, contre lesquelles la Bible parle, ils les ont jetées dehors. Par exemple, les statues, et ça c'était fini, parce que la Bible parle contre les statues. Donc, dès le 19e siècle, donc ça fait à peu près 100-150 ans, ces églises protestantes, pour la plupart, ont commencé à remettre en doute l'autorité de la Bible. Et ils ont entamé un dialogue œcuménique en vue de trouver des points communs et de retrouver une unité avec l'Église catholique romaine. Donc aujourd'hui, par la démarche œcuménique, un grand nombre d'églises protestantes sont en pourparlers avec l'Église de Rome. Ces églises protestantes ont l'intention de ne pas fondre avec l'Église de Rome. Mais l'Église de Rome, dans son dialogue, dit clairement, elle souhaite que ses frères reviennent dans la bergerie et reviennent sous la direction du Saint-Père. Parlons maintenant de l'islam. L'islam est né au 7e siècle de notre ère, dans la pensée de Mahomet. Mahomet, c'était un caravanier d'Arabie Saoudite qui aurait eu des visions de Dieu. Il vivait dans une culture polythéiste. Les Arabes à l'époque croyaient en plusieurs dieux. Et il avait quand même, de par ses voyages, de très nombreux contacts avec les Juifs et les chrétiens, qui étaient les deux, bien sûr, monothéistes. Et il développe un système religieux monothéiste. Pour Mahomet, l'islam est là pour restituer dans sa pureté la religion révélée à Abraham, Moïse et Jésus. Mahomet dit, je suis le dernier et le plus grand prophète, je suis un descendant d'Abraham par son fils Ismaël. Mahomet aurait reçu le Coran dicté par Dieu, divisé en sourates, vous savez, les chapitres du Coran, dont certaines sont théologiques et d'autres sont pour organiser la vie communautaire. Les hadiths sont les enseignements oraux du prophète qui sont rassemblés et écrits, qui donne un enseignement juste et final, qui est la sunna. Vous avez les sunnites et les chiites. Les sunnites s'attachent à ce qu'a dit Mahomet et disent « Tous ceux qui observent ce que dit Mahomet sont avec nous, les sunnites, la tradition. » Les chiites disent « Non, il faut que l'islam soit dirigé par un des descendants directs de Mahomet. » Et donc, il faut aussi que, ça c'est important, que soit un de ses descendants qui... Donc, c'est pour ça qu'il y a cette grande division entre les sunnites et les chiites. Selon Mahomet, qui ne savait ni lire ni écrire, mais il était persuadé que les écritures, la Bible, ont été falsifiées par les juifs et par les chrétiens. Et pourquoi croyait-il cela? Parce qu'il a vu des juifs et des chrétiens notamment, qui étaient plutôt des païens, qui vivaient à la manière païenne, et disaient, leur livre doit être faux, parce que quelqu'un l'a falsifié, parce qu'on voit bien qu'ils ne vivent pas comme ils devraient. Ils adorent toutes ces statues, alors que tu penses qu'il y a un seul Dieu, donc leur Bible a été falsifiée. Ce que le pauvre ne savait pas, c'est que notre Bible n'a pas été falsifiée. C'est que les chrétiens n'observaient plus du tout la Bible, et ne l'obéissaient pas, d'où un énorme malentendu. On se demande ce qui serait devenu Mahomet s'il avait pu rencontrer un chrétien vraiment convaincant et qui vivait strictement selon la parole de Dieu. On se pose la question. En tous les cas, il dit non, il faut une autre révélation qui mette les choses en règle. Donc Allah est le Dieu unique, seul maître, sa volonté ne peut être connue. Allah est bon et ce qu'il veut est bon, mais sa bonté ne l'engage nullement envers les hommes. Tout homme doit sacrifier sa volonté, ses espérances et son raisonnement à Allah afin de faire uniquement ce que Allah lui ordonne. L'islam a 5 piliers, le shahada, où le croyant prononce dans toutes les circonstances de sa vie, il n'y a de Dieu que Dieu, Mahomet et son prophète. Il a la prière ou le salat, faite 5 fois par jour en direction de la Mecque. Il a le jeûne du ramadan, qu'on connaît bien en Europe. Il a l'aumône bienfaisante ou le zakat et le pèlerinage à la Mecque qu'on appelle le hajj au moins une fois dans sa vie pour ceux qui ont les moyens. D'autres commandements incluent le jihad, c'est la guerre sainte, contre ses propres passions et contre les polythéistes. Le mariage fécond, avoir beaucoup d'enfants. Un autre des règles de l'islam, c'est la propreté du corps. Alors qu'ils vivaient dans des terres sablonneuses et il n'y avait pas beaucoup d'eau, ils disaient, si vous ne pouvez pas vous laver à l'eau, lavez-vous avec du sable, mais il faut que votre corps soit pur pour la prière. Des interdits alimentaires, tels que le vin, le porc, les animaux étranglés, assommés ou tués par accident. Le fidèle donc vit en sacrifice de sa raison individuelle. Il ne doit pas réfléchir, il doit se soumettre à Allah et il n'a aucune garantie d'une contrepartie en amour. Il n'a aucune garantie que Allah l'aime et le musulman n'a aucune garantie d'aller au paradis pour l'éternité. Peut-être qu'il ira, mais il n'a pas la garantie. Le musulman le plus fidèle peut ne pas être accepté par Allah et un non-musulman pourrait être accepté par Allah. Allah ne dit pas à l'avance ce qui va se passer. Chacun doit se soumettre et attendre patiemment qu'Allah fasse son choix après sa mort. Il y a une seule exception à cette règle. Celui qui meurt dans une jihad, il a la garantie absolue d'accéder immédiatement au paradis. Et ceci explique pourquoi ils n'ont jamais de manque de volontaires pour se faire exploser, etc. Parce que c'est inscrit dans la foi islamique. Voilà, on a fait le tour un peu des religions. Vous dites, bon, et passons donc à l'évangile. Je passe à l'évangile. Que veut dire le mot évangile? Le mot veut dire bonne nouvelle. Le mot évangile, on n'a même pas traduit. On a pris le mot évangélion en grec et on a fait un mot français évangile. Mais traduit, ça veut dire une bonne nouvelle. C'est un mot courant, bonne nouvelle. C'est employé dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, le mot évangile veut dire une chose de particulier, mais à l'époque, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ta soeur a téléphoné, j'ai un évangile pour toi, tu as une hausse de salaire, j'ai un évangile, ta cousine vient d'avoir un enfant, un évangile, une bonne nouvelle, tout simplement. Mais dans la Bible, la bonne nouvelle est résumée par l'apôtre Paul en Corinthiens 15. Écoutez ceci, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. L'apôtre Paul annonce que cette vérité peut nous sauver si nous le retenons exactement comme il l'a dit. Si on doute que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si on doute que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, si on doute que Jésus-Christ est ressuscité, on ne peut pas être sauvé. Mais si nous croyons ces trois choses, Dieu est disposé à nous sauver et il a promis de le faire. Christ donc est mort pour nos péchés. Et pourquoi? Et pourquoi? Bien parce que le péché nous empêche de connaître Dieu. Ésaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le problème donc, c'est le péché. Christ a payé pour nos péchés comme substitut à cause de l'amour de Dieu pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous offre la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, selon les Écritures, selon cette Bible. En Genèse, chapitre 3, verset 15, « Dès que l'homme et la femme tombent dans le péché, Dieu leur annonce qu'il enverra un homme qui naîtra d'une femme, et on l'a compris par la suite, d'une vierge, et que la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. » Autrement dit, Dieu enverra quelqu'un qui détruira la puissance du diable
et qui remportera la victoire finale sur le péché. Le prophète Ésaïe donne quelques détails de plus. Il dit que cet envoyé, ce Messie, ce Christ, va mourir entre des brigands, comme un brigand, mais il sera enseveli dans le tombeau d'un homme riche, et après sa mort, il va prolonger ses jours, ce qui est difficile à faire. Mais ça veut dire, après sa mort, il va ressusciter. Une prédiction faite 600 ans avant Jésus-Christ. Le roi David a prédit les paroles que dirait Jésus sur la croix. Il a prédit la manière dont Jésus mourrait avec plus de 20 détails précis dans le psaume 22. Jésus, après sa résurrection, a fait une promenade de 10 kilomètres avec deux de ses disciples. Et pendant qu'ils ont marché, Jésus a dit ceci. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc Jésus lui-même dit, il fallait que je meure, il fallait que je ressuscite. Je suis ressuscité, tout ça a été prédit, et maintenant prêchez cet évangile dans le monde entier. Jésus a été enseveli, il a dit, il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ensuite, il a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Luc 23. Et ensuite, après être enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alors, selon les Écritures, ça a été prédit dans l'Ancien Testament qu'il ressusciterait. Les ennemis de Jésus ont tout fait pour empêcher cette résurrection. Même les apôtres ne croyaient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus leur rende visite pour les en convaincre. Il leur est apparu plusieurs fois en leur montrant qu'il était encore physique. Il leur a dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montre à ses mains et ses pieds. Il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Si quelqu'un entrait par cette porte, vous croyez mort. Et qui vous disait, venez, touchez-moi, touchez mes mains, touchez-moi. Et si vous le touchiez, et s'il disait, donnez-moi quelque chose à manger, lui donnez, et puis il mange devant vous, et puis ça ne tombe pas par terre. Vous allez dire, mais il a prouvé par A plus B qu'il est physiquement présent et vivant avec nous. C'est ce qu'a fait Jésus pour convaincre ses propres apôtres qu'il était ressuscité. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Ils étaient obligés de l'accepter. 50 jours après cette résurrection, ces mêmes apôtres ont proclamé la résurrection de Jésus-Christ dans la ville même où on l'avait mis à mort. Ça aurait été facile pour quelques personnes dans la foule de dire, écoutez, venez avec nous messieurs, on va vous montrer son sépulcre. Vous ne pourrez pas dire qu'il est ressuscité, allez prêcher ça ailleurs où vous n'êtes pas connus. Mais ici, on vous connaît, vous savez, vous ne pouvez pas nous le faire. Ah ben non, dans la ville même où Jésus est ressuscité, on a proclamé sa résurrection et 3000 personnes ont accepté le message et se sont engagées publiquement au péril de leur vie. Pendant 300 ans, ces apôtres et les premiers chrétiens ont préféré mourir dans la persécution plutôt que de nier la résurrection du Christ. Autrement dit, les apôtres qui n'y croyaient pas, par la suite ont été tellement convaincus qu'ils sont tous morts, martyrisés, plutôt que de nier la résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez, quand on sait que c'est un mensonge,
on n'accepte pas de mourir pour un mensonge. Si vous racontez un mensonge et ça vous permet de gagner beaucoup d'argent, peut-être vous allez dire, bon, je sais que c'est un mensonge, mais je le dis quand même parce que ça m'intéresse financièrement. Mais si vous dites un mensonge et les gens menacent de vous tuer, vous allez dire, bah, écoutez, c'est une blague, hein, c'est une plaisanterie, hein, c'est pas sérieux. Ne me tuez pas pour ça. Mais quand vous dites, je sais que c'est vrai, même si je meurs, je dirai que c'est vrai, c'est pas un coup monté là. Ils étaient convaincus. Alors, je termine. Religion ou évangile? La religion vient de la pensée de l'homme. L'évangile est le message de Dieu. La religion ne donne aucune certitude pour l'au-delà. L'évangile donne l'assurance du pardon de Dieu et la vie éternelle. La religion coûte beaucoup à l'homme en termes de souffrance, de travail et de sacrifice. L'évangile s'accepte par la foi. C'est Dieu qui a tout payé. La religion s'appuie sur l'histoire, la nature, le raisonnement. L'évangile s'appuie sur une personne historique, Jésus-Christ, Dieu fait homme. La religion cherche à apaiser un Dieu inconnu, distant et imprévisible. L'évangile présente un Dieu plein d'amour et intéressé par chaque individu. La religion s'appuie sur ce que l'homme peut faire pour Dieu. L'évangile, c'est ce que Dieu a déjà fait pour l'homme. La religion se mérite. L'évangile se donne. La religion s'est développée peu à peu. L'évangile a été prédit longtemps à l'avance par des centaines de prédictions. Et le Sauveur a accompli toutes les prédictions qui le concernaient. 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Moïse a prononcé ses paroles devant Israël de la part de l'Éternel. Et voilà ce que Moïse a dit. Au nom de Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Deutéronome chapitre 30. Jésus-Christ lui-même a prononcé ses paroles devant Marie et Marthe peu de temps avant sa crucifixion. Il leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Notre Dieu, nous voulons te prier que ce message nous permette d'apprécier encore plus l'Évangile qu'auparavant. Merci de nous avoir délivrés du labyrinthe de toutes ces religions humaines. Merci de t'être révélé à nous en Jésus-Christ. Merci d'avoir payé pour nos péchés et nous avoir accordé la réconciliation avec toi. Gloire à ton nom. Amen.
Et bien, merci, Tim, pour ce message si nécessaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous, en tant qu'Église, on veut vraiment donner un signe de reconnaissance envers notre Père et son équipe. Et je vous invite à ne pas oublier le panier d'offrande là-bas, avant de partir, parce qu'on veut vraiment donner un bon don pour tout ce que notre Père et son équipe. On est vraiment reconnaissant à notre Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné pendant ces trois jours, n'est-ce pas? Et juste après l'étude, je vous invite aussi pour un repas fraternel ensemble. Si vous pouvez rester, je crois qu'il y aura bien sûr assez à tout le monde. Je sais d'avoir fait la multiplication. N'est-ce pas? Eh bien, gloire à vous pour ce message. Et bien, avant de terminer ce culte, je voudrais qu'on chante le 147 dans l'heure de la foi, Divine Parole, 147. lis une parole qui soutient ma foi, sa sainteté console bien briller en moi. Alors, chantons debout si vous voulez, le 147.
Thank you.